listening.
Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, ce matin nous voudrions que ta parole encore soit puissante pour nous. Elle l'a été dans le passé. Veuille Seigneur qu'elle le soit encore aujourd'hui. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. On n'avait jamais vu Jésus comme ça. On s'était fait de lui une image, l'image de celui qui va guérir les bobos du peuple. Mais ce jour-là, on ne l'avait jamais vu agir de cette manière-là. Jésus, dans le temple, un fouet à la main, chasse les animaux, renverse les cages, renverse les tables, jette l'argent à terre, et de lui émane une telle autorité que personne n'ose y résister. Tout le monde sort, sauf qui peut, le plus vite possible. Et Jésus nettoie le temple. Oh, quand il part de là, c'est un désordre indescriptible dans le temple. Le désordre que peut laisser ce nettoyage que Jésus fait sans prévenir les tables, l'argent, le reste des animaux qui ont laissé là leur pâture, leur paille et tout ça. Mais c'est enfin le silence dans ce parvis du temple. Jésus agit avec une telle autorité, personne n'y résiste, on ne le connaissait pas de cette manière-là, on est étonné de ce qu'il fait. Et les évangiles nous racontent que Jésus va agir de la sorte deux fois durant son ministère, au début et à la fin. Au début, pour indiquer clairement quelle est son identité. À la fin, pour hâter son arrestation, son procès, pour mettre le comble à l'exaspération peut-être de ce peuple juif qui veut se débarrasser de celui qui, par ses actions et ses paroles, est un reproche à tout ce qu'ils vivent. Ainsi, Jésus, au début de son ministère, va essayer de faire comprendre à ce peuple clairement qui il est. Et nous avons lu ensemble ce passage dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 2, à partir du verset 13 jusqu'au verset 22. Jean nous rapporte cet événement au début du ministère de Jésus. Au verset 18, il est dit, « Les Juifs prenant la parole lui dirent, « Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte ?» Le mot qui est employé ici n'est pas le mot « miracle » que l'on peut trouver couramment. En fait, il demande littéralement, si l'on prend le texte, « Quel est le signe que tu nous présentes là ?» D'ailleurs, dans les versets qui précèdent, le même mot est employé concernant le miracle dans lequel Jésus a transformé l'eau en jus de raisin. C'est présenté au début du chapitre 2 de l'Évangile selon Jean. Au verset 11, il a dit « Tel fut à Cana en Galilée le premier des signes que fit Jésus. » C'est dire à quel point et Jean, les disciples, et les Juifs comprennent que ces actions de Jésus ne sont pas des actions gratuites. Elles ont un sens bien précis. Ces miracles de Jésus ne leur apparaissent pas comme une action surnaturelle en soi. Il y a un sens à ce que Jésus fait, et ce que Jésus fait parle plus fort que ce qu'il dit. Que veut-il dire? Et c'est ce qu'il demande. Quel signe fais-tu? Quel signe montres-tu pour agir de la sorte? Et Jésus va leur répondre d'ailleurs, dans les versets qui suivent, montrant par là qui il est. Ce faisant, Jésus en réalité accomplit la prophétie. Regardez dans le livre de Zacharie, au chapitre 14, ce qu'il est écrit au verset 21. Zacharie, chapitre 14, à la fin du verset 21, il est écrit « Il n'y aura plus de marchands dans la maison de l'Éternel des armées en ce jour-là. » Et lorsque nous lisons le contexte de ce chapitre, nous nous rendons compte qu'il s'agit là d'une action bien précise de Dieu dans un contexte de fin des temps. Vous regardez au début du chapitre 14, au verset 1er, il est dit « Voici le jour de l'Éternel arrive ». On regarde un peu plus loin au verset 9, il est dit « L'Éternel sera roi de toute la terre en ce jour-là. L'Éternel sera le seul Éternel et son nom sera le seul nom ». D'autres versets nous indiquent clairement encore que ce contexte souligne la fin des temps. Et Jésus, ce faisant, réalise aussi cette prophétie où il est dit « Il n'y aura plus de marchands dans la maison de l'Éternel des armées ». Mais est-ce que c'est la fin des temps déjà ? Dans un sens oui, dans un sens non, c'est en tout cas la fin d'un temps. Les livres apocryphes, le premier livre d'Enoch en particulier, chapitre 89, rappelle cette tradition juive selon laquelle, dans leur esprit, lorsque le Messie viendrait, il détruirait le temple et en reconstruirait un plus beau que celui de Salomon. Avec cette idée en tête, les Juifs entendent Jésus dire « Détruisez ce temple et en 3 jours je le reconstruis ». Ce que Jésus dit est pour eux clair à leurs oreilles. Il se présente comme le Messie. Et c'est la raison pour laquelle ils n'en veulent pas, bien que curieusement ils l'attendent. Jésus dit clairement par ses paroles qui il est. Mais remarquez, il dit « Détruisez ce temple ». Il ne dit pas « Je vais détruire le temple et je vais en reconstruire un nouveau ». Il leur dit « Ceux qui vont détruire le temple, c'est vous. Moi, je vais en reconstruire un autre parce que vous allez le détruire. » Et le texte mentionne au verset 21 « Il parlait du temple de son corps », faisant référence à la crucifixion qui devait venir. Dans ce sens-là, les Juifs ont détruit le temple et tout. En fait, les Juifs devaient choisir entre Jésus ou le temple. Ils ont choisi le temple et ils ont perdu les deux. Dans le livre Jésus-Christ, je lis ce paragraphe que je trouve approprié dans le contexte où nous sommes. Appliqué au temple de Jérusalem, les paroles du Seigneur « Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai » avaient une portée que ses auditeurs ne devinaient pas. Le Christ était le fondement de la vie du temple, dont les services préfiguraient le sacrifice du Fils de Dieu. Le sacerdoce avait été établi pour représenter le caractère et l'œuvre du Christ comme médiateur. Tout le plan des sacrifices annonçait la mort du Sauveur pour le rachat du monde. Quand les Juifs eurent achevé de rejeter le Christ en le mettant à mort, ils rejetèrent tout ce qui donnait une signification au temple et à ses services. Sa disparition était donc imminente. En mettant à mort le Christ, les Juifs détruisirent virtuellement le temple. Et c'est ce que Jésus est en train de leur dire. Jésus est en train de leur dire « Je suis ce temple, vous allez le détruire, mais j'ai le pouvoir de le reconstruire en 3 jours. » Jésus est en train de leur dire finalement que derrière les murs, derrière l'or, l'argent et tout ce que ce temple contenait qui en faisait une beauté, il y a le Christ lui-même. Jésus est le temple. Et on le comprend lorsqu'on lit maintenant dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 21, ce qui est écrit en rapport avec la fin. Apocalypse chapitre 21 verset 22. Apocalypse, chapitre 21, verset 22, dit ceci. « Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. » Il est le temple. Ainsi, Jésus lui-même essaye de tourner l'attention de ceux qui l'écoutent, loin des beautés d'un édifice dont ils sont fiers, vers la personne de celui qui est venu pour les sauver. Dans ce sens-là, le temple prend plusieurs dimensions. Le temple, ce n'est pas simplement un certain nombre de pierres, si belles soient-elles, installées les unes sur les autres dans un site particulier à Jérusalem. Le temple, c'est beaucoup plus que ça. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 8, nous apprenons quel est le premier, le grand, le vrai temple. Épître aux Hébreux, chapitre 8, l'apôtre Paul, au verset 1er, dit ceci. Épître aux Hébreux, chapitre 8, verset 1er. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Le temple, le vrai temple, nous dit le texte, c'est d'abord celui qui est dans le ciel. Et bien entendu, ce temple, c'est celui dans lequel Jésus, maintenant, à l'heure actuelle, remplit son ministère. Ce ministère que Jésus remplit dans le temple céleste est d'une grande importance parce qu'il est en préparation pour son retour. Où donc le service du temple revêt-il sa plus grande importance? Dans le ciel. La Bible nous dit qu'il y a un sanctuaire céleste où Jésus intercède. Mais il y a un autre temple, une autre dimension du temple. Et nous lisons dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 1er. Épître aux Éphésiens, chapitre 1er, versets 22 et 23. Éphésiens, chapitre 1er, versets 22 et 23. En parlant de Dieu par rapport à Christ, il est dit « Il a tout mis sous ses pieds. » Et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Son corps, l'Église. Voilà une autre dimension du temple. L'Église, qui est son corps. Et c'est ce que nous disait finalement le texte de Jean 2 que nous voyons tout à l'heure. Il parlait de son corps. Ça, c'est une dimension importante aussi de l'Église. Parce que nous en faisons partie, nous sommes les éléments constructeurs de ce corps visible, en tout cas sur la terre. Il nous est dit dans Matthieu 18, vous connaissez ce texte là, où un ou deux sont assemblés en son nom, il est au milieu d'eux. L'Église est une autre dimension du sanctuaire. Il y a une troisième dimension du sanctuaire qu'il ne faut pas oublier et que l'apôtre Paul rapporte dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 6. Première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 6, à partir du verset 19. Un Corinthiens, chapitre 6, verset 19, il est dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu ?» et que vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Nous sommes, en tout cas, nous sommes invités à être le temple du Saint-Esprit. Notre comportement, notre vie, notre attitude dans notre vie chrétienne fera la différence, et c'est ce qui nous permettra de devenir le temple du Saint-Esprit. Dans la première épître aux Colossiens, l'apôtre Paul écrit « Christ en nous, espérance de la gloire ». Si nous ne devenons pas le temple du Saint-Esprit, si autrement dit le Saint-Esprit ne peut pas agir, opérer et demeurer en nous, pas d'espérance de la gloire. C'est donc une nécessité que ces trois dimensions du temple et du sanctuaire soit mise en valeur et fonctionne selon le plan divin. Trois dimensions du temple. Une dimension céleste, le temple qui est dans les cieux, où Jésus intercède. Une dimension sur terre qui est l'Église, puisque la Bible nous dit que l'Église est son corps. Et puis nous-mêmes, individuellement, appelés à être le temple du Saint-Esprit. Mais le message biblique ne s'arrête pas là, parce que ce que Jésus a fait dans le temple de Jérusalem, à deux reprises dans son ministère, au début et à la fin, le nettoyage de tout ce qui ne devait pas s'y trouver, c'est exactement ce que Dieu veut faire dans ces trois temples dont nous venons de parler. Regardez avec moi dans le livre de Daniel au chapitre 8, le verset 14, un passage prophétique que nous connaissons bien et qui a un sens extrêmement important pour nous aujourd'hui qui attendons le retour de Jésus. Daniel chapitre 8, nous lirons verset 14. Une question est posée. Il est dit, « Jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés ?» Et il me dit, « 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. » En fonction de la durée qui est donnée ici dans ce texte, il ne peut pas s'agir d'un autre temple que le sanctuaire céleste. La date de départ de cette prophétie nous est donnée au chapitre 9, 457 avant Jésus-Christ. Et nous savons, parce que la prophétie est précise et claire, que ce processus de purification du sanctuaire céleste, ou de jugement déclenché dans l'univers entier, a commencé il y a plus d'un siècle et demi, dans le ciel. C'est dire à quel point cette purification du temple céleste et de tout l'univers est directement lié à la préparation au retour de Jésus. Mais la deuxième dimension de ce temple, Dieu veut aussi la purifier. Regardez avec moi dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens. Première épître de Paul aux Thessaloniciens au chapitre 5. Première épître de Paul aux Thessaloniciens chapitre 5. Il est dit au verset 23 que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, c'est lui qui le fera. Cette dimension, c'est la purification de notre temple, le temple du Saint-Esprit que nous sommes appelés à être. Dieu veut aussi purifier cet aspect de son temple, comme il veut d'ailleurs purifier aussi l'autre aspect plus collectif qui est celui de l'Église. Regardez dans l'Épître aux Éphésiens au chapitre 5. L'apôtre Paul prend là une illustration que nous connaissons bien, pour nous montrer à quel point Dieu veut agir dans son Église aussi. Éphésiens chapitre 5, verset 25. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Est-ce que vous voyez à quelle hauteur Dieu place la barre pour son Église? Ni ride, ni tache, rien de semblable, non, sainte et irrépréhensible. Voilà l'objectif que Dieu place pour nous, pour l'Église et pour nous en tant qu'individus, afin que nous soyons irréprochables pour l'avènement du Seigneur. c'est dire à quel point cette œuvre que Dieu a commencée est pour lui d'une extrême importance. Elle l'est aussi pour nous. Dans le même livre, Jésus-Christ, à la page 143, je lis ce paragraphe. Les parvis du temple de Jérusalem, déshonorés par le scandale d'un trafic impur, n'étaient que l'image trop fidèle du temple de leur cœur, sali par la présence des passions sensuelles et de pensées profanes. En chassant du temple les vendeurs et les acheteurs, Jésus proclame son intention de purifier le cœur de la souillure du péché, des désirs terrestres, des convoitises charnelles, des mauvaises habitudes qui corrompent l'âme. En purifiant le temple, souillé par le commerce de tous ces gens, Jésus, en fait, accomplit un signe qui montre à quel point il veut purifier entièrement le temple que nous sommes individuellement. Le purifier de quoi ? Le purifier de la souillure du péché, des désirs terrestres, des convoitises charnelles, des mauvaises habitudes qui corrompent l'âme. Devant ce programme que le Seigneur met sous nos yeux, nous pouvons nous sentir complètement démunis et impuissants, parce que nous avons peut-être essayé les uns et les autres d'arriver à cette pureté que le Seigneur demande, et nous avons réalisé que si ce n'est pas lui qui la réalise, elle ne se réalise pas. C'est la raison pour laquelle, en réalité, nous sommes ici ce matin. Nous sommes venus ce matin réclamer de la part du Seigneur qu'il accomplisse en nous ce que nous ne pouvons pas faire. Mais il ne le fera pas si nous ne le lui demandons pas. Si nous ne venons pas conscients de cette immense nécessité qu'il accomplisse en nous le même nettoyage que celui qu'il a fait dans le temple. Or, nous avons au fur et à mesure du temps introduit dans notre temple toutes sortes de choses, d'habitudes, de commerces, toutes sortes d'idées qui appartiennent au monde qui est là-dehors, toutes sortes de modes qui circulent et qui viennent et qui rentrent, parce que nous sommes aussi dans ce monde. Notre temple s'est rempli de tout un tas de trafics dont le Seigneur voudrait nous débarrasser. Si nous ne lui demandons pas, un jour le Seigneur risque de venir le faire comme il l'a fait dans le temple. C'est la raison pour laquelle je vous invite aujourd'hui de reconnaître qu'il y a dans le parvis de notre temple une foule de choses qui n'appartiennent pas au Seigneur, que le Seigneur voudrait nettoyer pour nous préparer à son retour. Venons donc le lui demander dans la participation à cette table symbolique qui est présentée devant nous, de peur qu'un jour il ne le fasse comme il l'a fait dans le temple. Le Seigneur voudrait que nous soyons prêts pour son retour, prêts chaque jour. Nous reconnaissons qu'il y a une tâche importante à accomplir, mais il est prêt à le faire si nous le lui demandons. En participant ce matin au lavement des pieds, à la table symbolique où se trouvent le pain et le jus de raisin, symbole de son corps et de son sang, nous venons humblement reconnaître notre immense besoin de sa grâce et notre désir de la recevoir au nom de Jésus. Amen.